Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut les gauchias.
Salut Guillaume.
Marion, qu'est-ce qu'on s'emmerde dans cette boîte?
Hein, qu'est-ce qu'il y a?
Ah ben bah, il a glissé en allant chercher un café puis il est tombé sur la tête.
Bah j'ai glissé chef.
Et donc
Bah il a un petit peu sonné quoi.
Enfin, ah comme dans le film de José Garcia, notre invité du jour.
C'est ça, mais du coup il a plus du tout de filtre social.
Bah dis donc, José Garcia, il aurait pas un peu pris du cul?
Mais attends Guillaume, on est tellement content de recevoir José Garcia.
Mais c'est un acteur comique par excellence.
Ouais, enfin c'est pas de funeste non plus. Hein.
Enfin il est vivant lui au moins.
Guillaume, là t'es pas tout à fait dans la nuance.
La nuance, moi je connais pas, moi je tranche, je décide, je décapite.
Attends, on va tester un truc. Guillaume, qu'est-ce que tu penses de Charline?
Charline, bah autoritaire, tyrannique, c'est l'absolutisme en puissance.
Mais
quoi.
Non, mais c'est pas vrai.
Bah, on peut pas dire que cette analyse de toi le classe directement dans les déséquilibrés.
Ah ouais. Bon, et Alex, t'en penses quoi?
Alex, moi, c'est un ringard, il est pédant.
Ah ouais. Ah alors, voilà. C'est grave. Il dit n'importe quoi. Effectivement,
là, c'est peut-être pas un bon exemple.
Bah, je suis pas du tout pédant.
Ouais, mais t'es complètement ringard.
Non, mais mon petit pote, tu vas bien te calmer, ouais.
Qu'est-ce qu'il a, le Fernand Reynaud des bistrots là?
Attends, Alex, attends, il faut peut-être l'aider à recouvrer ses esprits là.
Mais je vous entends, hein.
Mais je parle un truc radical.
Bah, ça m'étonnerait, venant de toi, t'es aussi radical que François Bayrou.
Bon bah ok d'accord, bah radical, passe-moi la casserole.
Ah bah non, la casserole habituellement c'est plutôt toi Charline quand
mais
tu chantes.
Non mais alors
Guillaume ça va?
Ouais super. Bon alors on m'attend pas pour parler de l'invité, c'est qui?
José Garcia.
José Garcia, j'adore, c'est un mec formidable.
Et dis donc, son régime ça a bien marché hein.
Bonjour la France Inter, bienvenue dans la holding du service public qui déploie le parachute doré de l'actualité au-dessus des actionnaires de la blague. Parlons d'Europe, parlons de l'Espagne. Elle votera d'abord pour les législatives à la fin du mois et alors que la dictature franquiste s'est achevée il y a 45 ans à peine, un parti d'extrême droite, Vox, rejaillit sur l'échiquier.
On a quand même le droit d'être fasciste, même si on n'est pas d'extrême droite, merde.
Les vélos et les trottinettes sont négligemment jetés sur nos trottoirs après utilisation, obligeant les piétons à les enjamber. Une galère pour les déficients visuels. Et la mairie de Paris songe donc à taxer les opérateurs de trottinettes.
Oh, le trottoir est à tout le monde en République, hein, je m'excuse.
Un parent sur sept regrette le prénom qu'il a donné à son enfant. Une étude menée en Grande-Bretagne montre que souvent, les parents pensent avoir trouvé un prénom unique avant de s'apercevoir qu'il est finalement très commun.
Depuis qu'on a adopté la petite... merde. Dans son prénom, là, il y a un A dedans. Ah, ça me reviendra.
Et lui, il s'appelle Alex, oui. Et il le vit plutôt bien.
Il y a un A dedans. Bonjour Charline Manonaker. Et bien belle équipe évidemment pour un invité comme aujourd'hui à 17h20. Il y a eu l'homme de Picardie avec son bateau qui naviguait sur l'eau. Elle, c'est la femme de Picardie qui avec son humour marche sur l'eau. C'est Constance, bonjour.
C'est beau, bonjour.
Oui, j'ai passé. De quoi on va parler?
Alors aujourd'hui, on va vous... Enfin, je vais essayer de... Pardon, excusez-moi. Allô? Ouais non, je suis à Inter, je peux pas te parler là. Que je te ramène des capotes? Non, je suis pas à Intermarché, je suis à France Inter. Ouais, allez, bisous maman.
Eh ben voilà.
Je vais essayer de remonter le niveau en parlant de culture.
Très bien, vous aussi vous avez travaillé ce lancement à 17h30. Il y a eu l'homme qui tombe à pic, qui arrivait toujours quand on l'espérait. Et il y a aussi l'homme qui tombe toujours mal, qui arrive vraiment quand on n'a pas envie de le voir. C'est vous Guillaume Meurice?
Oui, c'est moi, bonjour à tous. Gros sujet aujourd'hui, attention. C'est le championnat de France de sushi. Voilà, donc grosse... vous ne saviez pas, mais je suis aussi là pour ça. Grosse ambiance, grosse pression, car le champion aura un beau cadeau.
Il rentre dans l'équipe de France de sushi.
Oh putain. Allez les bleus.
Et enfin à 17h40, il y a eu la croisière s'amuse ou quand le bateau parfait. Voilà, on savait que ça finirait bien. Il y a la croisière, le croisière qui s'amuse plutôt et quand le bateau part, on sait jamais vraiment s'il va arriver à bon port. C'est vous Thomas Croisière?
Oui effectivement, et je ne suis pas que beau.
Voilà, celle-là je vais l'improviser parfois, on regrette le direct. Aujourd'hui, nous allons parler du plus grand acteur de sa génération. Et je ne vous dis pas qui c'est.
Ce serait pas celui qui jusqu'à 18h va survoler l'actu en kitesurf par exemple? Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes
José Garcia.
Mais oui, c'est vrai. France
Inter. Je suis pas sûr moi.
Il ressemble pas
Alex. En plus gros, mais
c'est Robert Downey Jr.
Déjà, qu'est-ce qui me prouve que c'est le vrai José Garcia? Déjà.
Je sais pas. Bah, si vous étiez là tout à l'heure, il y a un mec qui s'appelait Antoine Decaune qui est venu. La première chose qu'il a fait, c'est me piquer mon téléphone. Je veux dire, il serait pas chier avec quelqu'un.
Alors c'est bon, c'est validé.
Oui, c'est validé.
Bienvenue José Garcia. On peut vous voir à l'écran. Ça sera en salle demain. Le film s'appelle Chamboultou, film d'Éric Lavenne, où vous jouez aux côtés d'Alexandra Lamy, d'Anne-Marie Vin, de Michael Youn, Nuno Lopez, Mehdi Sadoun, Michel Villermoz, Olivia Cotte, Anne Girouard. Quel magnifique casting. Alex Vizorek. Je vous laisse, José Garcia. Faites-en bon usage.
Je vais faire ce que je peux. En une ligne, le début, ça s'ouvre sur votre femme, Alexandra Lamy, qui a écrit un livre sur sa vie. Tout le monde est content de la sortie du livre. Tous les amis l'achètent, on la célèbre. Sa vie qui a changé parce que son mari est sorti du coma. Et quand il est sorti du coma, il y avait plus trop de frontières sociales, ce mari, c'est vous. C'est-à-dire qu'il dit tout ce qu'il pense et il est aussi aveugle. Ça part d'une histoire vraie. C'est toujours un peu bateau cette question, mais ici c'est quand même doublement intéressant. Comment vous avez préparé le rôle, sachant qu'il y a des gens qui ont vécu ça, et sachant que vous devez jouer quelqu'un qui a une souffrance, mais qui n'est pas non plus absolue, c'est-à-dire que c'est très léger.
Alors, je dirais que la raison, parce qu'en fait, Alexandra Lamy, le couple existe, en fait, la famille existe, les amis existent, tout le monde existe, mais voilà, l'axe qui a été pris par Éric Lavenne, c'est librement inspiré, si vous voulez, de ce livre qui a créé pas mal de distorsions un peu dans un groupe d'amis, voilà. Et moi, en fait, dans la vraie vie, ce personnage qui s'appelle Jean-Louis, en fait, il souffre d'anosognosie. Et en fait, l'anosognosie, en fait, c'est quand vous n'êtes pas au courant que vous avez eu un accident. Donc, en fait, je voulais garder le côté, parce qu'il paraît qu'il a gardé beaucoup d'humour. Enfin, voilà, il a une vraie énergie, il est très sympathique, ses enfants jouent avec lui, ses potes jouent avec lui. Évidemment, il n'a pas de mémoire immédiate, il a un vrai cauchemar qui est qu'en fait il a tout le temps faim. Donc c'est vrai que là c'est un trait du monde dans le film, ouais, mais pour lui en tout cas c'est vital, quoi. Voilà, il a tout le temps et puis il a besoin de manger de la junk food, quoi, vraiment un truc gras et tout pour que ça lui procure du plaisir.
Et il tape les gens quand il les croise. C'est-à-dire que pour lui ça semble normal que
il a besoin de manger, c'est comme un enfant, quoi. Dès que vous voyez que vous mettez sur un truc, s'il peut le prendre, il le prend immédiatement. Donc dès qu'il arrive à table, il cherche avec la main s'il y a pas un truc à manger. Évidemment, comme il a perdu un de ses sens qui est la vue, bah l'odorat est plus développé et du coup, bah, il peut choper un Whopper à 3 mètres.
vous l'avez pas rencontré, cet homme-là, vous, parce qu'Alexandra Lamy dit qu'elle a un peu rencontré, enfin, en tout cas, parlé avec les amis.
Alors, pour elle, c'était important. Parce qu'elle, elle allait vraiment incarner.
Vous vouliez créer cette façon d'être. Vous vouliez la créer de A à Z.
Je voulais pas la créer. C'est-à-dire que le problème, c'est que comme il n'était pas au courant qu'il avait eu ce traumatisme, moi, je voulais le garder beau. En fait, je voulais le regard qu'avait sa femme, la vraie femme dans la vie, qui s'appelle Barbara, m'avait dit, moi, je garde mon mec, je vais essayer de faire attention qu'il grossisse pas, je veux le garder impeccable, je veux qu'il soit bien sapé, je veux que pour pas que les gens aient de la compassion et se répandent ou le mettent de côté d'une certaine manière. Donc là comme ça, dès qu'il arrive à première vue, justement quand il déboule, vous voyez pas qu'il a un traumatisme.
Et pour un humoriste, c'est pas facile dans la mesure où vous avez pas les vannes vous. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le boulet, quand vous êtes dans la vérité, si je mens, c'est vous qui envoyez les vannes, c'est vous qui. Et ici, elles rebondissent un peu sur ce personnage qui est un peu qui se rend pas compte. Si quand il est drôle, il ne s'en rend pas compte.
Bah, le danger de ce rôle, si vous voulez, c'est la première, évidemment, le premier gros taquet, ça peut être le fait d'être non-voyant, parce que pour un film, les gens regardent qu'une seule chose, c'est quand vous allez cligner des yeux à One Side. Ça, c'est le truc. Alors ça, et puis vous foutez en l'air le boulot de tous les autres camarades, donc c'est une grosse responsabilité. C'est pour ça que pendant le tournage, je me suis pas collé avec mes potes, je suis resté dans mon coin pour rester le plus isolé possible pour... Ça les oblige aussi à prendre soin de moi et pas me taper dans le dos en me disant « Allez, José, vas-y, assieds-toi là. » Voilà, donc. Et le deuxième, c'est que comme c'est un personnage qui a eu des problèmes cognitifs, vous savez, quand on a un accident un peu comme ça, surtout de scooter, en fait, on parle toujours avec un peu plus d'agressivité, un peu plus voilà. Et comme il a tout le temps faim et qu'il a une espèce d'obsession, en fait, ça peut vite devenir un numéro d'acteur. C'est ça qui est le gros danger, si vous voulez, du rôle. C'est pas un cadeau.
Vous dites que vous voulez pas faire tomber le travail de vos petits copains. Vous avez une super liste de petits copains, Charline les a cités. Ouais. Et c'est, à mon sens, l'intérêt du film dans lequel on peut vraiment se projeter. C'est ce livre où elle décrit, le personnage d'Alexandra Lamy décrit le comportement de tous ses amis vis-à-vis de la maladie de cet homme. Et quand eux le lisent, ils se rendent compte de qui ils sont. Et c'est ça qui est très, très difficile parce que certains ne se reconnaissent même pas dans les bons personnages.
Ah non, parce qu'elle a changé les noms. Ouais. Donc ce qui est terrible, c'est qu'il y en a certains qui se reconnaissent immédiatement qu'il y a des noms. Le personnage est bien campé, mais c'est pas du tout eux. Donc forcément, ça crée des gros emmerdes, quoi.
Ouais, François, qui Akiré est formidable dans le rôle du Akiré, mec qui comprend rien.
Ah oui, génial. Et puis il se trouve super bien campé, puis il se rend compte à la fin que c'est lui le radin de la bande, quoi. Mais il paraît qu'il y a, je crois, 30% de gens en France qui veulent écrire. Enfin, donc la première envie serait d'écrire des livres et surtout sur leur vie.
Régler des comptes.
Donc non, pas régler des comptes, juste sur leur vie. Mais on se dit que ça va être la meilleure façon de foutre le bordel, quoi, dans un groupe de potes, quoi.
Personnage campé donc par Alexandre Alamy ou Michael Youn, Anne-Marie Vin, Nuno Lopez ou Mehdi Sadoun, avec José Garcia, bien sûr. Chamboule tout. Derrick Lavenne sort en salle demain. La nosognosie, c'est la maladie dont souffre Jacques Chirac et qui lui a fait dire « je vais voter Hollande ». Mais non, c'est vrai. Véridique.
Écoutez, on revient un peu sérieux. Gauche quand on
est... Il est 17h17. Mais aussi 7h du matin, écoutez.
Il est 7h du matin. Faut se réveiller. Oh, je sommeille. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train, je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Je trouve plus ma brosse à dents. Quel passé celle-là encore. La bleue est à mon père, la rouge est à ma mère, la jaune est à mon frère. Vous avez pas vu ma brosse à dents? Aujourd'hui. Ah, pour demain, j'ai un devoir d'anglais. J'aimerais bien avoir Paul McCartney pour m'aider. J'ai envie de mettre un 10 pour embêter les voisins qui rompent toute la journée. Quelque chose comme un bon Elvis Presley. Oh, mais c'est vrai, celui-là, il en est resté. Un peu d'eau sur la figure pour me réveiller. Le dodo, c'est terminé. Je suis presque prête et ça va beaucoup mieux. Je mets mon Shetland rouge ou bien mon Shetland bleu. Shetland bleu. Mon Shetland rouge. Non, mon Shetland bleu.
Jacqueline Taïeb sur France Inter. Par Jupiter, il est 17h19. C'est José Garcia, notre invité. Et pour l'entourer, Alex.
Mais ne me dites pas qu'il y a Constance, Guillaume et Thomas Croisière.
Si. Bah, si, évidemment, oui.
Là. Bah, alors, c'est vrai, c'est ça. Alors.
Mais ah oui. Par contre, j'ai pas de journal, moi. Alors
vous
n'avez
pas de journal. Ah bah pourtant, je l'ai mis sur votre bureau, donc on va.
Ah,
En tout cas, c'est dire si vous l'avez bien.
On va me l'amener, on va commencer. Oui,
laissez les clés pour le journal de 17h17.
Ah, vous l'avez pas donné, je vous dis, allez.
Vous l'avez pas donné.
Moi, je vais vous dire, j'ai tout le système, je troll le système.
Le journal de presque 17h17.
Qu'est-ce qu'un troll? Le troll provoque la mort de l'idiot qui parle.
Et on commence par les titres.
En remaniement, l'opposition dénonce les choix consanguins d'Emmanuel Macron.
Bon. Ouais, bah mais je savais pas non plus qu'il avait nommé Christine Boutin au gouvernement.
Nicolas Sarkozy estime, lui, que ça finira mal pour Emmanuel Macron.
Et oui, quand Nicolas Sarkozy dit que ça finira mal pour quelqu'un, on peut le croire, demander à la famille Kadhafi.
Des brèves?
Bien sûr, et j'ai même entendu que Guillaume avait aimé faire des brèves hier.
Ouais, ça, j'ai aimé, c'est agréable à faire. C'est plus agréable à faire qu'à écouter.
Il y a d'autres choses comme ça. Allez, on commence.
Ça vous ennuie si on fait le jeu?
Non, bah maintenant que vous l'avez, profitons-en.
François Hollande, oui. L'extrême droite arrivera au pouvoir en France un jour, a-t-il
dit. Oui, c'est une prédiction qui nous fait. S'il est aussi bon en prévision qu'en matière de lutte contre le chômage, normalement, on est tranquille.
Côté Emmanuel Macron, maintenant pour sa venue en Corse, le maire de Bastia appelle à une journée île morte.
Oui, enfin une journée île morte, je vois pas bien ce que ça change d'une journée habituelle en Corse.
Oui, mortalité routière.
Salut. J'ai pari à cette blague.
D'après Christophe Castel, ceux qui détruisent les radars doivent avoir du mal à se regarder le matin dans leur glace.
Mais je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, Christophe Castaner, il arrive à se regarder dans sa glace, lui, après avoir éborgné tant de gilets jaunes.
Un
petit peu, mais il a réglé ce problème en ne se regardant plus dans sa glace le matin, mais dans celle de Clara. Donc ça, c'est sympa.
Haute-Garonne, 5 morts et 14 personnes aux urgences après une possible intoxication alimentaire dans un EHPAD.
Bon, l'avantage d'une intoxication alimentaire dans un EHPAD, c'est que tous les pensionnaires ont déjà des couches. Donc, voilà.
Chasse. La Ligue de protection des oiseaux.
Si vous l'aviez lu avant, vous l'auriez interdite, celle-là.
Mais ça, c'est. La Ligue. Mais pas que je l'ai lu avant. Ouais. La Ligue de protection des oiseaux va déposer plainte contre la France, car 63 espèces, dont une vingtaine en déclin, continuent de pouvoir être chassées.
Oui, bah, du coup, ça ne sert à rien de déclarer les joggers comme une espèce en voie d'extinction. Ils seront quand même tirés dessus aussi.
Effectivement. Société, après.
Oui, une chanson crée la polémique. Alors là, je peux vous dire, un syndicat de police a même porté plainte. Oh,
chanson engagée qui pousse à la violence.
Bah, presque. Ouais. C'est une chanson du chanteur Aldebert pour enfants. Écoutez.
Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à faire le tour de la maison en pyjama pour choper froid.
Faire pipi sur un policier.
Faire pipi sur un policier, mais c'est attention, c'est pas tout.
Prendre en otage ma petite sœur,
mais attention, c'est pas tout.
Faire sauter la salle de classe à la dynamite.
Ah ouais, c'est chaud. Et là, non, mais là, vous vous marrez, vous pensez que c'est une vanne. Moi, je l'ai lu le 1er avril, donc j'ai vérifié deux fois. Le syndicat de police a porté plainte pour incitation au terrorisme, provocation d'un mineur à commettre un crime et délit et diffamation.
Ah, bah quand même, oui.
Si j'étais faut qu'ils écoutent Didier Super. Vous connaissez Didier Super?
Bien sûr. On adore, on est fan.
Bah, moi aussi, j'ai essayé de l'amener dans plein d'émissions, mais personne en veut.
C'est parce qu'il reste pas longtemps. Mais voilà. S'il vient pour chanter, ça marche. Donc oui, que Aldebert fasse bien gaffe, il y a une balle de flashball perdue.
Oui, people encore.
Oui, n'hésitant pas à s'engager, ça c'est magnifique, pour des causes importantes, Ariel Dombal a décidé de lancer un appel à lutter pour le climat. Une belle petite vidéo sur Twitter, dont quelques extraits.
La naturaleza. Keep your greens alive. Heaven can't wait. Save our plants, our trees, our beauty, our climate.
Voilà, bon, déjà ça donne envie de bien sauver la planète. La vidéo commence dans un avion, puis se poursuit dans une voiture. Ariel Dombal est aussi crédible dans la guerre contre le climat que son mari dans la bataille de Sarajevo. Ouais.
Et alors, Guillaume Meurice, c'était moi, vous avez écrit « Lutter contre le climat ».
Oui, mais j'ai dit « Pour c'est là que je suis vigilant.
Oh, le lapsus.
Spotted et des brèves.
Et des brèves. Une Maserati contrôlée à 258 km/h dans le département du Pas-de-Calais. Alors on peut comprendre qu'on a envie de quitter le Pas-de-Calais, mais pas à cette vitesse-là, s'il vous plaît.
Ça va plus vite, normalement.
La dernière.
Et un scientifique anglais crée un alcool qui ne rend pas ivre.
Ouais, c'est bien ça.
Bah non, si ça sort de temps, ça va mettre un petit coup de frein à mon palmarès sexuel.
Merci Alex Vizorek.
Mais
il
de
est
rien.
17h24 sur France Inter. Sur Europe 1 aussi, noté.
Ouais, mais c'est
là, on est sur France Inter parce qu'il y a José Garcia qui est avec nous.
Ça y est, pas là.
En salle demain, le film d'Éric Lavenne chamboule tout. Et nous allons aborder avec vous ce premier sujet, car nous changeons le monde dans cette émission.
C'est maintenant.
Attention,
c'est très bien. Quand je vois quand vous avez démarré, j'ai l'impression qu'on va rentrer direct dans la semoule.
Il y a une montée en puissance.
Alors, un mois avant les élections, deux mois avant les élections européennes, les Espagnols voteront aussi pour les législatives avec une liste d'extrêmes droite toute neuve, émergente, car la dictature s'est achevée il y a 44 ans seulement. Franco, le mec est dead en 75, comme on dit au gouvernement. Hein. Bref, c'était hier.
Le père Basile, il dit que De Gaulle est un dégénéré. Il a trahi les Français et a abandonné l'Algérie.
Parfaitement. De Gaulle est un dictateur et un tyran.
Alors si De Gaulle est un tyran, comment tu considères Franco ?
On s'en fout de Franco.
Ah bon ? Et les 100 000 républicains fusillés pendant la guerre d'Espagne ? Ça t'est égal ?
Les femmes du sixième étage. La liste Vox, elle est assez gratinée. On a noté, il y a un historien révisionniste, des militaires nostalgiques du franquisme et un ex-militant fasciste. Vox est le parti d'extrême droite espagnol qui est entré au Parlement andalou. C'était une première fois depuis Franco. José Garcia, on se demandait si...
vous qui êtes d'extrême droite.
Excusez-moi, il faut que j'aille aux toilettes. Je reviens tout de suite. Oh là là,
vous qui me cachez pas vos sympathies
le bateau
le franquisme.
Vous êtes en train de me filer, je peux mettre des gants quand même pour le prendre ou pas? Oh la vache, putain, à peine arrivé, ça commençait
mais
bien.
Mais vous avez vécu, c'est votre habit citoyen, vous avez vécu en Espagne dans les années 2000.
Ouais, voilà. Plutôt dans la Mavida, moi, hein, donc.
Ouais. Votre villa où ça, en Galice ou...
Non, la Mavida à Madrid.
Ah, dans la, d'accord, très bien. Ah oui, j'avais compris, dans ma villa.
Ouais. Non, pas dans la Mavida.
Dans la Mavida. Ah, dans la Mavida, dans d'accord. Mavida. Ouais, bien sûr, je connais, parce qu'à Bruxelles, on a une Mavida du Nord aussi.
C'est vrai?
Ouais, bien sûr.
On ne me dit rien, moi.
Ben voilà. Non, mais vos parents sont réfugiés espagnols ?
Non, ils sont partis pour des raisons économiques.
Ah !
Oui, mais les gens aiment bien écrire. À chaque fois, je l'ai dit 50 fois, mais tout le monde me dit « Alors, vous avez fui la guerre ?» Je dis « Non, on a fui la dalle. »
Non,
ils sont réfugiés pauvres.
Faim.
Ils sont réfugiés pauvres.
Ben, voilà, c'est quand même une conséquence du franquisme.
C'est une, oui, une conséquence de la guerre civile, de tout. Bah oui, bien sûr. Mais c'est une guerre absolument atroce, hein, ouais. entre voilà, une guerre civile. C'est vrai que.
Mais justement, ce qui nous frappe, nous, en tant que Français ou Belges, c'est de voir que l'Espagne est un pays dont la fin de la dictature est encore fraîche, 75, et qu'il y a déjà un parti d'extrême droite qui entre au Parlement andalou, dont les manifestants se rassemblent Plaza del Sol à Madrid. J'imagine que vous êtes quand même troublés.
Bien sûr, parce qu'il y a énormément de gens de gauche aussi. Tout le cinéma, enfin, j'ai rarement vu des gens aussi engagés de manière politique et vraiment du point de vue parti plus communiste, vraiment socialiste, je dirais que c'est presque tiède pour eux. Donc c'est assez impressionnant, mais il y a encore énormément de gens, oui, qui sont encore là et qui ont une résurgence. Et vous voyez bien qu'en Europe et partout, il y a une espèce de remontée du fascisme, que ce soit en Italie, en fait, partout où il y a eu des viviers, en tout cas, de fascisme, où les gens tiennent encore les institutions, où c'est encore... quelquefois, quand vous croisez des gens de cette trempe-là, de cette arrière-garde, c'est impressionnant.
Y compris le mausolée de Franco.
Dans le Valle de los Caídos.
Qui fait vraiment froid dans le dos. La dépouille de Franco, elle sera exhumée le 10 juin, si tout se passe bien. Elle va quitter le mausolée qui est à 66 km de Madrid pour un cimetière au nord de Madrid. Vous dites, enfin, c'est une des choses... que vous trouviez peut-être anormal ou
Écoutez, moi, franchement, j'ai pas d'opinion là-dessus. Le seul truc, c'est qu'à partir, oui, c'est 66 bornes. Non, mais là, c'est vrai. C'est vrai que quand je suis vraiment défoncé, j'arrive jamais aussi loin. 66 bornes avec une Lamborghini Countach. Je suis désolé, c'est un peu loin, mais je passe devant. L'histoire, je sais pas, je peux pas vous dire. Le souci, c'est que c'est vrai que c'est une espèce de patate chaude dans le sens où c'est un lieu qui a été, un lieu où il y a eu beaucoup de gens perdus au combat. Il y a aussi
Los Caídos, c'est ceux qui sont tombés.
Ceux qui sont tombés, mais bon, voilà. Et que ça a été un dictateur. Mais le problème va se poser dans tous les pays du monde qui ont une dictature. Qu'est-ce qu'on va faire de la famille Bush? Non. Avec tous ces gens qui sont morts dans plein de pays.
Et vous, votre famille est originaire de Galice, donc?
Oui, alors moi j'ai la chance d'avoir eu... C'est la région où est né Franco et où est née la famille de Castro. Je suis à 66
tout
bornes.
Tout ce qui est dictature, quoi. Tout ce qui tourne autour de l'univers de la dictature.
C'est chez nous. On est petit, on en veut à la terre entière. On a un temps qui n'est pas forcément très encourageant. Alors je peux vous dire qu'on est partout terrain. Mais
vous êtes vénère, quoi.
Dès qu'on arrive en plaine.
Vous avez un charisme, vous parlez bien. Vous avez hésité entre une carrière de dictateur et une carrière de comédien
ou... Je désespère pas de ces quatre. Le pronostic m'a forcé à la gorge.
Comme vous aimez jouer les salauds.
Non, mais c'est vrai que jouer à dictateur, c'est vrai que c'est. Voilà, ouais. c'est jubilatoire.
C'est fou. Comme tout le monde rêve de ça. Moi, ça m'inquiète un petit peu, je vous dis, mais bon.
Ça va venir.
José Garcia est avec nous. Il est 17h29 sur France Inter. Et Constance est dans la place.
Amis de la littérature, bonsoir. Je suis Mireille Caniche, votre présentatrice qui frise la sympathie sans jamais la toucher. Et soyez les bienvenus dans Hydroculture, notre émission culturelle mensuelle ennuyeuse où l'on boit beaucoup d'eau et où l'on se culture avec des gros livres pleins de pages écrits en tout petit. Je vous promets ce soir autour de cette table des invités dépressifs, mal habillés, avec des haleines de notaire, qui débattront sans grande conviction de thèmes qui n'intéressent personne puisque la littérature est morte. La télévision a tué la culture. Monsieur Hanouna et Madame Nabila, regardez ce que vous avez fait de la culture. Vous l'avez souillée. Je suis devenue à cause de vous un pantin sans vie qui n'a plus qu'à se servir de ses diplômes pour se torcher le séant. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je vais me reprendre. En cette merveilleuse journée internationale du livre pour enfants, j'ai eu envie de poser une question. Comment donner à l'enfant le goût de la lecture, le goût du livre? Ah, nous avons une auditrice qui souhaite intervenir, je vous écoute. Bonjour, alors moi je suis Kelly, j'ai une idée incroyable, l'autre jour j'ai eu besoin de la partager parce que je suis quelqu'un d'assez altruite. Je m'y connais trop mal en poisson, bref. Voilà, je me lance. Si on mettait un goût de nourriture sur les livres, par exemple un arôme bacon ou caramel, est-ce que ça donnerait aux enfants le goût de la lecture, envie de dévorer les livres? Merci Kelly pour cette idée brillante. Je ne saurais que trop vous conseiller de mettre votre tête au fond d'un sac plastique et de le serrer très fort pour éviter que le moindre filet d'air puisse passer. Ah d'accord, merci. J'ai autre chose à dire, vous trouvez pas que les crochets d'attelage derrière les voitures on dirait des sissies? Bien. Enchaînons. Sinon, je vais encore pleurer des larmes provenant d'une tristesse si profonde qu'elle se rengorgeait de merde. Je me tourne sans plus tarder vers notre invité, Bernard Cuillère, qui a écrit un livre bien particulier à l'occasion de cette journée mondiale du livre pour enfants. Ben moi, je suis carrément fan de science-fiction et d'écologie. C'est pourquoi j'ai décidé d'imaginer des aventures d'un héros policier pacifiste qui viendrait venger la planète Terre en ouvrant des épiceries bio. Il combattrait en fait le mal à l'aide de gélules qui diraient des gentillesses aux gens quand il les ingérerait. Ça s'appellerait des compliments alimentaires. Et le nom de ce héros, ce serait Robiocop. Merci Bernard. J'ai très très envie de vous frapper. Voilà, parce que je pense que vous écoutez, c'est pire que tout. D'ailleurs, Bernard, frappez-moi. Je vous en supplie, frappez-moi. Je regrette, je vais pas vous frapper, Mireille. Frappez-moi, putain, Bernard. Au moins, je pourrais ressentir autre chose que du dégoût. Excusez-moi de vous interrompre. Moi, je m'appelle Noémie, j'ai 10 ans. Et j'ai rédigé un pamphlet contre les adultes. Parce qu'à cause de vos caprices de bébé vaniteux et égocentriques, je dois faire le deuil de mon enfance. Parce que nous, les enfants, on doit essayer de sauver le monde au lieu de pouvoir rêver comme des enfants. Parce que vous nous laissez la Terre dans un état lamentable. Ma mère, elle me dit, range ta chambre, range ta chambre. Ben, moi, je lui dis quand même, range un peu le monde. Parce que tu vois dans quel état tu me le laisses. À cause de vos bêtises, les seuls pandas qu'on pourra bientôt connaître, ce sera les Fiat. Sur ce, je vous laisse écouter. Je vous laisse vous écouter. Vous, bah ouais, non, c'est pas fini. Sur ce, je vous laisse vous écouter parler. Et moi, je vais aller me creuser la tête pour essayer de trouver une solution pour sauver le monde. Allez, ciao les immatures. Bien. Eh bien, écoutez, c'est dommage qu'aujourd'hui ce ne soit pas la journée mondiale de la tête dans son caca, parce qu'on aurait fait une bonne chronique. Voilà. Bisous.
Constance, merci Constance. Vous êtes ce soir, comme tous les mardis, au Théâtre des Deux Ânes.
Absolument.
Il faut se dépêcher, c'est jusque quand ?
Jusqu'à fin avril.
Ah, oh, ouais. Et bien voilà. Ah, on est encore là.
Oh, c'est malin, ouais.
Ça. 17h33.
C'est pro. Oh,
vous dormiez ?
Bah, presque.
Ah bah, merci, bien. Ah bah, bravo. Vous êtes sur France Inter, il y a José Garcia qui est là, quand même un peu de tenue. Hein ? Et The Specials, vote for me. Bam.
If we vote for you, do you promise to be upright, decent, honest, to have our best interests at heart? You understand why we don't believe you. You're way too easy to see through. Not the best of places to start. There are no rocks at Rockaway Beach, and all that glitters isn't gold. Drunk on money and power, inside your ivory tower, teaching us not to be smart, making laws that serve to protect you, but we will never forget that you tore our families apart. There are no rocks at Rockaway Beach. Glitters isn't gold. Do is reject you, your power.
On se réveille, il est 17h36 sur France Inter. Je suis inquiète pour les gens au volant.
Mais
bien sûr, c'est normal. José Garcia est avec nous. Le film d'Éric Lavenne qui s'appelle Chamboule-tou sort en salle demain. José Garcia joue aux côtés d'Alexandra Lamy, de Michael Youn, d'Anne Marivin, Nuno Lopez, Mehdi Sadoun, Michel Villermoz, Olivia Cotte et Anne Girouard. Vous n'êtes pas ennuyés, dites donc. À côté de vous, José Garcia. Avant de retracer votre carrière avec Thomas Croisière, car nous avons déjà entendu Constance, il y a Guillaume Meurice.
Oui, ben vous le savez, j'essaye au maximum de faire des chroniques avec quelques blagounettes dedans. Mais là, aujourd'hui, je suis désolé, le sujet s'y prête pas vraiment. Ça arrive, hein, aujourd'hui, il y a une vraie tension, il y a un vrai suspense, il y a un vrai engagement. A débuté ce matin le championnat de France de sushi. Voilà, donc énorme événement hein, qui rassemble des dizaines de concurrents de toute la France. Donc les meilleurs, hein, les meilleurs du sushi, les Federer du poisson cru, les José Garcia du riz vinaigré. Je le sais parce que je suis allé sur place avec évidemment l'accord de Jacques Vendroux du service des sports de Radio France qui chapeaute un peu tout ce qui est compétition de haut niveau. Alors a priori personne n'était prévu pour couvrir cet événement, donc, comme quoi je me demande bien à quoi sert la redevance, mais bon, c'est une autre histoire. Voilà pour polémiquer. J'y suis allé. Alors la tension était palpable en tribune parce qu'il y avait des tribunes avec tout d'abord la présence de la famille des participants, notamment cette épouse très inquiète.
Là il m'a dit qu'il n'était pas super content de lui et j'ai vu qu'il tremblait un peu, il était un peu stressé donc. Voilà.
Ah, c'est le championnat de France, quand même.
Moi, j'ai peur aussi.
Ouais, alors, la peur était présente, bien évidemment, partout, comme pour toutes les grandes compétitions. Hein. Mohamed Ali a avoué sur la fin que lui aussi, il avait peur en montant sur le ring. Et lui, il n'avait même pas la pression de la cuisson du riz, quoi. Donc, vraiment, là, c'est encore pire. Même les mamans des concurrents étaient là, elles étaient inquiètes, hein, évidemment, également.
C'était un peu le stress, quoi. En fait, ils ne savaient pas qu'il fallait apporter plein de choses.
Ah, oui, tout le monde doit venir avec son matériel.
Voilà.
Ah oui, donc il part avec un petit handicap, quoi.
Là, j'ai l'impression que c'est le stress qui le bloque, enfin, je sais pas.
Ouais, bloqué au point d'en oublier son matériel. Alors attention, à ce niveau de la compétition, tout se joue sur des détails, hein, vous le savez. Vous voyez, par exemple, en demi-finale de Coupe du Monde de foot, une équipe qui aurait oublié une partie de son humilité,
par exemple.
Ou une partie de son marquage sur Samuel Umtiti en seconde mi-temps. Et c'est foutu. Et c'est foutu et c'est le seum pour des années. Alors ça s'appelle le mental, hein, pour gérer le stress, hein, n'est-ce pas, monsieur?
Il y a du stress, bien sûr, mais après, c'est un championnat et il faut apprendre à le gérer, ça fait partie de la dimension du concours, je crois.
Il y a une préparation psychologique pour être champion de sushi?
Obligatoirement, dans la préparation technique, quoi qu'il arrive, il y a aussi une préparation de stress et une gestion de son stress sur le travail. Donc,
ouais, on a connu hein, des préparateurs de sushi excellents à l'entraînement et puis complètement perdre leurs moyens comme ça en compétition. On se souvient tous des images terribles de personnes engluées dans leur riz, hein, sans mêler comme ça dans les algues, tout ce jour avant dans la tronche. On est bien d'accord que le mental, c'est quand même pas une spécialité française. Ce candidat, est-ce qu'il est prêt?
On ne peut pas estimer être prêt, ou alors il faut vraiment une grande confiance en soi, même. Je sais pas, moi je me suis jamais senti prêt et je me sentirai prêt quand ça sera fini, quoi.
Est-ce que vous vous sentez comme un Français à Roland-Garros?
Ouais, c'est possible.
Il a pas la gagne. Il a clairement pas la niaque. Ça, c'est français. Hein. On est capable de perdre un championnat de France. Hein. Faut faire gaffe à ça. Mais bon, on s'en fout parce que si on perd, on accusera les juges. Hein, les juges, évidemment, japonais. Parce qu'ils sont quand même un peu bizarres.
Ils regardent les assiettes, ils parlent japonais, on sait pas si c'est bon, pas bon.
C'est vrai que c'est compliqué, ouais.
Ils font toujours des bruits de donc on sait pas.
Vous avez du mal à interpréter les juges,
c'est ça.
Ah, les fourbes, de toute façon on va se venger. Quand il y aura le championnat du monde de tartiflette à Tokyo, j'espère qu'il y aura des juges français qui feront oh my you, hein, comme ça va bien les paumer. En attendant, donc les résultats seront connus en fin d'après-midi et vous pouvez les retrouver dans cet excellent trimestriel qui s'appelle France Sushi. Alors, on est là aussi dans cette émission pour faire la promo de la presse libre et indépendante de notre pays. On est là aussi pour donner la parole à leurs journalistes hein, qui suivent le championnat de l'autre après.
On va faire un reportage, oui, bien sûr, et on emmène le champion au Japon, à Tokyo.
Et vous le suivez et tout?
Je suis allée l'année dernière, oui, tout à fait.
Vous faites un peu les yeux dans les bleus.
Je sais pas.
Les yeux dans le sushi.
Oui.
Ouais, on a hâte de lire. Hein. Alors moi, depuis ce matin, je suis abonné. Hein. Bon, ça fait partie des petites faveurs qu'on a en tant que reporter de terrain. Autre faveur, j'ai rencontré l'organisateur de la compète qui n'est autre que le rédac-chef de France Sushi. Du sushi est quand même très très petit. Hein. C'est vraiment comme un maquis. Alors ce brave monsieur s'appelle Julien Panet, mais je vous rappelle que c'est pas le championnat de France de jeu de mots. Qu'est-ce qu'il pense des candidats?
Ils sont surtout là pour témoigner de leur passion. Et
il n'y a pas un risque qu'il y en ait un qui pète un câble et qui fasse une Zidane là en finale?
Il y a deux trois risques. L'année dernière, il y en a un qui s'est coupé qui s'est coupé un couteau.
Ah ouais, alors les blessures au championnat de France de Sushi, c'est pas du foot. Hein. C'est pas Neymar qui se roule par terre à chaque courant d'air, c'est la jugulaire hein, qui se vide directement. Sushi saignant. Alors c'est dangereux pour les participants et pour les autres. Dernière question, est-ce que ce championnat est éco-responsable ?
On peut utiliser des poissons sur une large diversité, pas toujours que les mêmes. Donc si on peut faire passer des petits messages en plus, c'est top. Et donc,
Et les sushis métaux lourds alors maintenant ?
On essaye qu'on ait le moins possible. Mais bon, on fait avec.
Voilà, on fait avec sushis métaux lourds. Vous pouvez bientôt les retrouver avec les sushis au plastique également, hein, servis par des gens tristes d'avoir perdu. Alors c'est pour ça que je dis vive les sushis végétariens et à bas la compète qui sert à rien.
Merci Guillaume Meurice. Et alors, est-ce que c'est meilleur quand c'est bien coupé ? Parce que ça, j'ai pas la réponse. Quoi.
Alors ça, on aura la réponse, à mon avis, dans France Sushi.
Que ah, oui, non, c'est la dextérité en fait. Ouais. C'est la manière de le faire, la cuisson
tout
et
compte,
tout.
Tout compte.
Et ouais. J'avais mon ami Chiro. Non, mais moi, je suis rentré dans le monde de la pizza, moi. En fait, j'avais fait chez Gino de Samuel ouais. Benchetrit. Ouais. Et mon coach était champion du monde de coupe de mozzarella. Et il s'appelle Chiro Panella. Non, je peux vous dire qu'il fait des pizzas de fou furieux, mais alors, la coupe de mozzarella, je peux vous dire que c'est vrai qu'il y a entre. Vous prenez une mozzarella, ouais. Vous la coupez vous-même, c'est une espèce de gros combat ouais. Acharné. Et là, le truc, il est coupé, mais c'est gigantesque. Comme quoi,
qu'on peut envisager un biathlon. Sushi mozzarella.
Pourquoi pas.
Mais c'est ça qu'on aurait dû faire en deuxième sujet. Mais voilà. Au lieu de parler des vélos et des trottinettes. Bon. José Garcia, on continue de changer le monde, bien sûr. Parler urbanisme. Les vélos et les trottinettes.
Tant qu'on sort de l'extrême droite et les boucheries, laisse tomber.
Le gros est fait.
Oh la vache. Oh, le début, là, j'ai cru que j'étais plutôt. Championnat de sushi, je me sens mieux, là.
Alors, Pinochet aimait beaucoup le vélo.
Oui, c'est ça.
Du vélo.
On met le gros sujet au début, comme ça, après, la pression se lâche.
Donc,
les vélos et les trottinettes, vous savez, ceux en flotte libre, là, ils sont jetés en travers de notre trottoir. Le chemin du boulot se transforme donc en 100 mètres. Et quant aux déficients visuels, ils devaient déjà slalomer entre les poubelles, les poteaux, les arrêts de bus. Puis voilà les deux roues qui compliquent leur vie. Il est donc question de légiférer. Et puis le rangement des véhicules, bien sûr, et de taxer leurs opérateurs.
Mais t'as pas envie d'écraser mon vélo ?
Quel vélo ?
On va bien voir.
Regarde-moi ça.
C'est malin.
Ah, c'est bien mon avis.
Ah non, je dis que c'est pas malin d'avoir laissé votre vélo, là.
C'est ça, c'est encore de ma faute.
Parfaitement.
Comment le camion écrase mon vélo, c'est de ma faute.
Parfaitement.
Bon, allez, Bon, je vais revoir mon boulot, maintenant, moi.
Il faut que tu fasses changer ta roue, l'assurance paiera.
Quelle assurance? Pas la mienne, en tout cas.
Ah, bah, c'est réussi.
Quoi, c'est pas à vous, le camion, peut-être, non? C'est à vous, la bicyclette?
Non, mais enfin, c'est à mon mari.
C'est un extrait d'Antoine et Antoinette, le film de Jacques Becker. José Garcia, alors déjà ce concept de pouvoir abandonner n'importe où sa vélo, sa trottinette, est-ce que c'est un pied de nez à l'ordre et au rangement ? Vous trouvez ça bien ?
Alors, tout dépend de l'horaire.
Vous aimez l'anarchie ou vous préférez quand c'est rangé ?
Je trouve qu'à partir d'une certaine heure, c'est quand même mieux de pouvoir laisser les affaires devant sa porte. C'est quand même plus pratique.
C'est quand même pas compliqué
maintenant,
de ranger un vélo.
Si quelqu'un d'autre sort à cet horaire-là, c'est vrai que ça peut être très gênant.
Je me
considère un peu des deux côtés.
Je comprends, mais est-ce que c'est quand même pas compliqué de ranger un vélo ou une trottinette ?
Alors, pour avoir encore utilisé une trottinette hier, parce que je suis un peu toujours l'homme impliqué, maintenant il faut prendre une photo d'où vous l'avez remis.
Ah bon ?
Oui, alors pour vous mettez que c'est fini votre course, et puis pouf.
Vous êtes verbalisé.
Alors, je
ne
sais pas ce qui se passe
euros.
Si le type qui regarde la photo dit non, il l'a mal mis.
Ah, oui, ça pose la question, vous, est-ce que vous êtes sensibilisé à ça ou pas maintenant ? C'est que pour les déficients visuels, c'est horrible.
Non, mais c'est horrible, bien sûr. Bien sûr que c'est horrible, mais rien que les trous déjà urbains, parce qu'on pourrait aussi taxer les mecs qui sont en train de faire des énormes trous. Il y a des trous partout dans Paris. Si vous baladez en vélo ou en moto, c'est des flip-flaps, des sauts, des... Après, il y a les dodanes. Ils sont super, les dodanes. Écoutez, moi, maintenant, quand je prends ma bécane, je pars dans Paris, j'ai même plus besoin de faire motocross. Je suis en wheeling en permanence. C'est extraordinaire. Mais le problème, c'est pas ça. C'est que dès le départ, il aurait fallu déjà organiser la chose avant de tout balancer. Après, c'est vrai que c'est génial de trouver des trottinettes à droite, à gauche, partout. Mais c'est vrai que pour une personne déficiente visuelle qui tout d'un coup en plus n'entend plus parce que tout est électrique,
vous prenez plus les bruits de la ville.
Le problème, c'est que maintenant vous sortez, vous êtes dans la voie des vélos, vous savez pas dans quel sens va un vélo, vous l'entendez pas arriver. C'est vrai que c'est compliqué. Mmh. Cette ville est devenue très très compliquée.
Hidalgo démission.
Les autres villes de France aussi. Hein.
Le principe est génial, si vous voulez. À partir du moment où vous êtes avec un peuple qui est organisé, faites la même chose en Suisse. Le truc, il est nickel. Il est posé là, mais en France, vous pensez bien que vous lâchez quatre trucs.
Il y a un côté latin quand même, latin, parce qu'en Belgique, en Allemagne, c'est bien rangé.
Il y a eu
une
époque en Allemagne où c'était bien rangé. Vous voulez votre avis là-dessus?
Qu'est-ce que vous avez pensé de cette époque où les gens étaient quand même bien rasés? rire et tout. Oui, oui, oui.
Les trottinettes étaient bien alignées.
Ouais, le problème, c'est que c'est la France. Et la France, ouais. Bah voilà, c'est...
Le résultat, il faut légiférer pour que les gens rangent leur vélo, ce qui est dingue. Et il faut taxer les opérateurs de trottinettes pour qu'il y ait des gens qui puissent aller récupérer.
Taxer, c'est le grand truc. À chaque fois, on vient tout taxer. Taxer les motos, les machins, tout. Ce qu'il aurait fallu, c'est organiser les choses et tout un petit peu avant. Parce que, comme vous connaissez les gens, surtout à Paris ou dans toutes les grandes villes, vous savez que ça va être le bordel, quoi. Là, maintenant, c'est la foire d'empoigne. Maintenant, en plus, vous avez beau, dès que les gens démarrent au feu rouge, c'est du 180. Non, mais sans déconner. Maintenant, c'est pour savoir à quel moment vous allez arriver sur le feu. J'ai jamais vu des gens rouler aussi vite de ma vie. Les quais, avant, les gens roulaient à 160. Maintenant, j'ai vu des mecs arriver, mais c'est une vitesse de dingue.
Ouais. Le problème, c'est les gens.
Mais le problème, c'est que c'est la France. On est vivants, les gars.
On avait envie de vous entendre râler un petit peu. Ça
j'ai l'impression
du bien,
qu'à chaque fois qu'on se comporte comme des connards, on dit c'est parce qu'on est latin. Est-ce que vraiment latin,
oui, il y a une forme d'anarchie, un peu de spontanéité, d'anarchie. Bah, par exemple, regardez, en Espagne, quand vous allez commander une bière au Zinc, si vous ne faites pas roder, que vous bousculez pas les gens, le serveur, il ne vous repère pas, il ne vous sert jamais.
Donc on a le droit de faire des clichés.
C'est pas vrai, ça.
Mais si, c'est vrai.
Généralement, ça dépend à quelle distance vous êtes du bar. Moi, on m'a toujours servi. Je suis juste au niveau des yeux. On me dit, tiens, le petit garçon, il veut une bière.
C'est parce que vous avez le regard menaçant, mais moi, je suis une fille, j'y arrive pas. Tandis qu'en Belgique ou en France, le serveur, il sait qui est arrivé avant.
Ouais, mais quand vous partez avec votre bière, qu'est-ce que vous tombez, sur quoi vous tombez? Une trottinette avec un con qui l'a posé devant. Voilà. On n'est jamais content.
Mais j'aurais jamais raison avec José Garcia, ça m'énerve. Thomas Croisière, reparlons cinéma, reparlons José Garcia.
Bien sûr.
Ça, c'est un collector, ça.
Merci José Garcia, car sans vous que l'on entend chanter, je vous laisse nous donner le titre.
Prison Collins and Incuso.
Premier rap italien et tube yaourt imparable d'Adriano Celentano, je n'aurais jamais découvert cet artiste majeur de la pop européenne que je qualifie de Michel Sardou italien. C'est vous dire si je l'aime. Aime comme Michel. J'étais parti pour faire un portrait humoristique qui démarrait par fils de Nicole et Andy Garcia. Le jeune José démarre sa carrière au cinéma en interprétant le sergent de Zorro, le sergent Garcia. Mais faire de l'humour face à vous, qui en êtes le Stradivarius, est aussi prétentieux et vain que de défier Michel au karaoké. Je vais donc sans rire vous proposer un top 4 José Garcia au cinéma.
Allô,
numéro 4.
Je suis un copain de Dove. Il m'a dit que t'aurais rien contre un petit 5 à 7 avec un mec super bien monté. Ça tombe bien, je suis un gros chaud de la bite. Tu sais quoi, je vais te casser tes petites pattes arrière et puis je vais te faire bouffer ton polochon. T'entends?
Serge? C'est toi mon fils?
Maman. Star du petit écran où en clair et sans décodeur, vous déconniez aux côtés de votre ami Antoine Decaune, vous explosez sur grand écran avec La Vérité si je mens. Le rôle de Serge Benamou, businessman raté et fêtard invétéré, vous apporte 17 millions d'entrées en 3 films et la reconnaissance des professionnels de la profession avec une nomination au César du meilleur espoir masculin en 1998. César remporté par Stanislas Mérard qui, cohérent, a décidé depuis de rester un espoir. Numéro 3.
Et là, il voit tout un d'ours bleu que c'est...
Toujours la classe. Il a fondé sa carrière sur la goujaterie.
Extrait de la blague de l'ours bleu et du chasseur que vous tirez la blague, pas le chasseur, sur 4 minutes dans Rire et Châtiment d'Isabelle Doval, votre femme à la ville comme à l'écran. Vous y êtes en Vincent, épuisant, roi de la fête, abonné au Fait Nourrir, aussi truculent qu'un Jim Carrey et aussi drôle qu'un Will Ferrell, tout en étant à Robert Downey Jr. ce que je suis à Ryan Gosling, un sosie quasi parfait. Vincent, résumé en une scène, celle où il constate que sa femme est partie avec ses affaires. Il l'appelle alors pour lui annoncer qu'ils ont été cambriolés et que, dinguerie, seules ses affaires à elle ont été volées. Vincent, ensuite condamné à apprendre à dompter son humour pour reconquérir son amour. Je soupçonne d'ailleurs votre femme d'utiliser le cinéma comme une thérapie de couple, puisque 10 ans plus tard, elle vous fera jouer Fonzie, branleur au propre comme au figuré, qui se retrouve le géniteur totalement irresponsable et parfaitement auto-centré de centaines d'enfants. Pensée solidaire pour vos deux filles, Lorraine et Thelma. Numéro 2.
Mais dis-moi, toi, tu viens pour ta sodomie?
Non. Non, pour un conseil.
L'un n'empêche pas l'autre.
Sa Majesté Minor, film honni de l'incompris Jean-Jacques Hano qui s'est presque autant fait défoncer par la critique que votre postérieur par Vincent Cassel. Mais citez-moi
un seul acteur non drogué et non alcoolique. Déjà, c'est difficile. Mais citez-moi donc un acteur capable de répondre à « Salut José, ça te dirait de jouer le rôle de Minor, un personnage du XVIIe siècle avant Jésus-Christ, mi-homme, mi-cochon, orphelin et muet, qui meurt après s'être fait sodomiser par un satyre joué par Vincent Cassel et ressuscite pour devenir roi. À part Daniel Day-Lewis pour remporter un 4e Oscar et faire son crâneur, je ne vois que vous, José Garcia. Bravo José et bravo Jean-Jacques, car votre film Grivois et Paillard a une folie et une liberté qui la mettent bien profond au politiquement correct et dérange presque autant qu'une chanson de Michel Sardou sur France Inter. Numéro 1.
Seulement j'ai un plan. Si je perds mon boulot, je rentre au bureau, je me tire une prune dans le citron devant eux. Devant eux.
Et pourquoi vous tirez pas une prune dans le citron d'un des deux autres? Préventivement.
Dans Le Couperet, vous incarnez Bruno Davert, un chômeur que l'ultralibéralisme transforme en serial killer. Le réalisateur Costa Gavras, spécialiste du film politique Z et l'aveu c'est lui, dénonce dans cette social fiction les excès de notre société où l'individualisme vous pousse à la sauvagerie et à la barbarie. Normal, en 2005, le film se faisait le reflet d'une société au bord de l'implosion avec 2,5 millions de chômeurs et 7 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Heureusement, tout cela est derrière nous, la France est en marche et il n'y a plus ni chômeurs ni pauvre. Costa Gavras vous compare au gigantesque Jacques Lemmon et il sait de quoi il parle puisqu'il l'a dirigé dans Missing, Palme d'Or et prix du meilleur acteur au Festival de Cannes 1982. Jacques Lemmon. Je ne connais pas comparaison plus flatteuse, à part peut-être, quand tu chantes, on dirait Michel. À l'heure où l'on entend souvent dire que le problème avec le cinéma français c'est qu'il n'y a plus de Gabin, Ventura, de Funès, Serrault oublié, moi je connais au moins un acteur de cette classe. Il s'appelle José Garcia. Mais le cinéma français est aujourd'hui trop petit pour rendre justice à l'immense de votre talent, un peu comme France Inter et le mien. Allez, je vous propose de nous enfuir aux États-Unis, José. Enfin, Tony, enfilez votre armure d'Iron Man. Emportez-moi tel Gwyneth Paltrow et recommençons tout là-bas. En hommage à Jack Lemmon, vous vous y ferez appeler Jacques Citron. Et moi, ben, Thomas Croisière, le French Tom Cruise.
Avec plaisir. Bravo.
Thomas Croisière.
Merci.
Bon, il a oublié le boulet. Super, il a oublié le boulet. Moi, je vous kiffe. Donc.
Ah, non, non, boulet, mais c'est très drôle. Ouais. Là, alors, les, c'est parce qu'on ne me les a jamais présentés dans ce sens-là. Mais alors là,
Et avec toutes vos références. Oh,
c'est très drôle. Merci.
Thomas Croisière, à revoir, bien sûr, en vidéo.
Car je suis aussi un physique.
Oui, c'est vrai. Celui de Richard Dreyfus, je trouve.
Absolument.
Mais franchement, très bel acteur, ça aussi. Grand génie.
Ça va, on s'est envoyé des.
On peut traiter mon dernier sujet ou pas?
Ouais.
Parce que selon une étude menée en Grande-Bretagne, avec le temps, un parent sur sept n'assume plus le prénom donné à ses enfants.
Ah bah,
C'est parce que la mode est passée. Eh oui. Parfois, c'est parce qu'on le croyait unique, ce prénom, et qu'il se révèle banal avec le temps. Est-ce qu'on a le temps pour le son ou pas, qui est vraiment très rigolo? Allez-y.
Mais tu vas être papa, j'hallucine. Comment tu vas l'appeler?
J'aime bien Serge. Serge. Tu veux qu'il ait pas de pote, ton fils, plus tard?
Comment ça? Bah attends, ouais, il est pas né, on dirait que tu lui veux déjà du mal.
Mais Serge, c'est très bien. Mais Serge, c'est les mecs qui puent de la gueule à la photocopieuse au boulot. Ouais, c'est bon, ça va, j'ai compris.
C'est pour ça que je m'appelle comme ça?
Ah oui? Ah, t'as d'autres copains qui ont le même prénom?
Bah non.
Bah voilà.
Ouais, bah c'est un prénom de merde.
Hé hey, Bigorneau! Tu parles pas comme ça, hein?
Le palmacho. C'est un article que nous avons trouvé dans Le Point. Vous vous appelez José en hommage à Rossellito? C'était qui, Rossellito? C'est vrai, ça, cette histoire, ou c'est pas vrai?
C'est vrai, c'est vrai.
Ouais.
Ouais, j'avais la petite raie sur le côté et tout, genre... On dira rien à tes parents.
Ouais. Est-ce que c'était connoté quand vous étiez à Paris de s'appeler
Mais tous les enfants d'Espagne, il y a eu toute une génération, bah, comme les fameux Kevin ou enfin tous les gens
Alors est-ce qu'ils l'ont regretté, vos parents, ou pas?
Non, moi, oui. Puis quand on voit le pauvre Rossellito, ce qu'il est devenu, lui, la Movida, il l'a pas encore fini d'ailleurs. Ah ouais, il a pris cher, le pauvre.
Qu'est-ce qui est arrivé
Ah bah il s'est lancé un peu dans les stupéfiants, comme on dit.
Ah d'accord.
Ouais. Okay, il a bien souffert, ouais.
Et les prénoms de vos enfants, tout va bien?
Ah non, pour l'instant, ça va. Après, forcément, il y aura des réclamations, mais pour l'instant, ça va.
Mais Cassine et Charentaise se portent très
bien. Il y a eu pas mal de demandes. Il y a eu des gens qui voulaient appeler les enfants Google, je crois. Il y a eu un super procès.
Mbappé aux Griezmann aussi, ou Djihad. Récemment, Djihad, dans le sud de la France. Oui, bon, il y a de tout. Hein. 17h55, France Inter, José Garcia. On adorerait jouer avec vous.
Si en fin d'émission, on propose un sketch à l'invité. On sait, voilà, vous aimez les rôles un peu de loubard, de méchant. Voilà. On s'est dit, dit Bernard Tapie. Bernard Tapie, ça va lui aller comme un gant, parce que hier, le ministère public a requis 5 ans de prison ferme à l'encontre de Bernard Tapie pour escroquerie et détournement de fonds publics. Alors, on s'est imaginé à quoi ressemblerait le premier jour de Nanar à la prison. José, vous êtes Bernard Tapie, Charline, c'est le maton, et Guillaume et moi, on est les co-détenus.
Par ici, monsieur Tapie.
T'inquiète, Boulette, je connais la baraque.
Oui, on va bien s'occuper de vous, monsieur Tapie.
Me banane pas, on la fait pas, hein.
Salut, mec.
Messieurs, enchanté. Je suis Nanar, votre nouveau coloc. C'est intime, ici.
Ouais.
Enfin, intime, qu'on se comprenne bien, hein. Le premier qui s'approche de ma plomberie, je l'avoine.
Ouais, salut, Bernard, moi, c'est Jawad. Jawad Ben Daoud.
Ton blase me dit quelque chose, là. T'es là pourquoi?
Bah, je sais pas, moi. Moi, j'ai voulu rendre service.
Ouais, d'accord. Tu vas pas me la faire, garçon.
Ouais, mais toi, t'es un escroc. Garde tes distances, hein. Moi, je veux pas des mauvaises fréquentations, hein.
Qu'est-ce qu'il y a? Le Stéphane Plaza du 93, là? Tu veux mon pied dans l'aile joyeuse?
Ah, monsieur, calmez-vous, là. On va être potes, donc, ça...
T'as raison, garçon. C'est mauvais pour l'attention. Et t'es qui, toi?
Et moi, je suis Redouane Faïd.
Je vais t'appeler Faillite. Eh, humour d'entrepreneur. Alors, t'as fait quoi pour gagner ce séjour-là, à frepayer?
Braquage, vol à main armée, quoi. Et toi?
Bah, j'ai braqué 404 millions de boules à l'État.
Ah, bah, ça rigole pas, hein, ouais.
Oh, ça va, fais pas la gueule, j'ai tué personne, moi.
Ouais, t'es un genre de braqueur, en fait. C'est...
Ouais, mais sans armes, ni haine, ni violence. Je suis une sorte de Spadjari, mais sans sa gueule cassée.
Ouais, d'accord.
Dis donc, Faillite, c'est pas toi qu'on surnommait le roi de l'évasion, là?
Si, je me suis fait la belle 2 fois.
Alors, prépare-toi pour la 3e, mon canard. Et oh, le maton!
Oui, monsieur Tapie, oui.
Pour une plaque, tu raboules les clés de la cellule.
Ah non, monsieur Tapie, je veux pas d'ennui, moi.
Et pour 10 plaques? 10 plaques, c'est beaucoup, 10 plaques. Je te préviens, hein, j'ai acheté un flingue. Quoi? J'ai acheté 1 litre de champion pour moins que ça. Hein.
N'insistez pas, monsieur Tapie.
Bon, on va passer au plan B. B comme Bernard. Hé hey. Bon, tu vois cette petite cuillère, hein?
Ouais, monsieur.
Dans la vie, il y a deux catégories de gens. Ceux qui ont un point chargé. Quoi? Attends. Et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Bah, monsieur...
Il n'y a pas de mais. Hé, Faillite, tu appelles un hélicoptère.
Ok, Bernard.
Il n'est pas encore mort, le nanar. Serrez les fesses parce que quoi? J'arrive pas à vous faire de mal. J'ai rien compris pour la suite.
Parce que j'arrive et ça va faire mal.
J'arrive et ça va faire mal, pardon. J'ai
José
perdu
Garcia.
Le fil. J'ai vu où j'étais.
Sur France Inter. Vous êtes sur France Inter, José Garcia. Et en salle demain, dans Chamboule-Tou, le film d'Éric Lavenne, où vous jouez aux côtés d'Alexandre Alamy, Michael Youn, Anne-Marie Vin, Nuno Lopez, Mehdi Sadoun, Michel Villermoz, Olivia Cotte et Anne Girouard. Merci beaucoup, José Garcia.
C'est un bonheur.
Plaisir partagé. Eh bien, nous allons vous laisser le mot de la fin.
Il y a un mec qui s'appelait Antoine Decaune, ouais, qui est venu. La première chose qu'il a fait, c'est me piquer mon téléphone.